Monseigneur Nassar, vous êtes l'archevêque maronite de Damas. Vous êtes ici dans les Hautes-Alpes pour quelques jours en ce mois de mai 2017. Et tout d'abord, nous avons envie de vous poser la question, mais que sont les maronites? Qu'est-ce que l'église maronite?
Voilà, vous êtes catholique de rite latin, je suis catholique de rite maronite. Le mot maronite vient de Saint Maroun, le fondateur un peu de notre église, un moine ermite du 5e siècle, 4e, 5e siècle, qui a créé une école spirituelle aux alentours d'Antioche et qui, suite au concile de Chalcédoine 451 sur la nature du Christ, Dieu et homme, cette école a suivi, a soutenu le concile. Donc, à l'opposition de la majorité des chrétiens d'Orient qui ont rejeté ce concile, donc qui sont maintenant, on les appelle monophysites, c'est-à-dire ils ont opté pour la seule nature. Alors les maronites ont suivi le concile de Chalcédoine dès l'aube, dès le départ, et c'est ce qui a fait qu'ils se sont coupés du reste des églises syriaques d'Orient. Et voilà, nous sommes maronites parce que c'est une église comme les autres. Hein. Vous savez, l'église maronite est une église et la messe maronite, c'est comme la messe chez vous. Il y a les trois parties. La première partie pénitentielle, la liturgie de la parole et l'Eucharistie. Et les trois parties de la messe sont un peu dans toutes les églises, quoi, sauf chez les réformés, bien sûr. Alors, l'église maronite, nous sommes spécifiques par... la liturgie. Nous avons une liturgie antiochienne syriaque et la réforme liturgique qui a été préparée pendant 40 ans, qui a un peu conservé, si vous voulez, notre latin, c'est-à-dire notre langue syriaque, reste présente dans toutes les messes maronites, qu'elles soient dites en arabe, en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Les trois prières clés restent toujours en langue syriaque. C'est ce qui fait l'unité de notre Église qui se trouve dans les quatre continents.
Alors sur l'ensemble des continents, parce qu'il y a une diaspora qui accompagne la diaspora libanaise au fond, puisque c'est une église fondée au Liban.
C'est une église fondée en Syrie. Église fondée en Syrie et suite, je vous ai dit, à cause des problèmes suite au concile de Chalcédoine et des difficultés avec les chrétiens d'Orient monophysites, ensuite avec l'islam, l'église de Maronite s'est déplacée au Liban, dans les montagnes du Liban, pour vivre presque 1000 ans cachés dans les vallées saintes et les grottes pour conserver un peu leur foi. Mais elle a toujours existé en Syrie. Et en Syrie, nous avons actuellement 3 diocèses maronites, Damas, Alep et Latakia. Il y a toujours une présence maronite. Mais la base, le foyer, si vous voulez, nationaliste, spirituel de l'église maronite est le Liban. C'est là-bas où il est notre patriarche, c'est là-bas où est notre grand séminaire, faculté de théologie, etc. C'est le Liban qui est le foyer spirituel qui nourrit toutes les églises maronites dans le monde.
Et ici, en France, quelle est la place de cette église?
La présence maronite en France est assez vieille. Elle remonte jusqu'à le roi Louis IX, oui, jusqu'à qu'on a célébré récemment le 8e centenaire. Saint-François Ier, à partir depuis vieille de vieille date, des Libanais, vivait à Damas, à Paris, en France. Et donc la présence maronite, pendant la guerre du Liban, 75-90, on peut recenser en France plus de 50 000 maronites. C'est pour cela qu'il a été proposé de créer un évêché, un diocèse, et notre premier évêque, c'est Mgr Nasser Gemayel, qui est basé à Meudon, à côté de Paris, et on était au séminaire avec lui, le père Pierre Fournier, à Lyon, dans les années 74-77. Donc, il cherche à organiser la présence des maronites en France, où il a officiellement une dizaine de paroisses actuellement, et il est en train de créer d'autres.
Ce qui donne finalement à cette église, à cette présence en France, une présence, j'allais dire, parallèle à celle des diocèses catholiques.
C'est-à-dire, c'est une manière d'aider ces maronites à conserver leur liturgie, leur patrimoine et leur tradition liturgique. Ce n'est pas une autorité parallèle, c'est un peu soutenir un courant spirituel d'Orient qui va se perdre. Parce que si là, la majorité des maronites de France vont à la messe chez les latins, hein, mais petit à petit, ils vont oublier les origines. C'est pour cela que la présence de cette église peut les aider à garder vivante cette tradition liturgique très ancienne du IVe siècle.
Donc, vous évoquiez cette création d'un diocèse, mais quels sont les liens particuliers de cette église, puisque vous l'avez précisé dans votre première réponse, vous êtes catholique. Quels sont les liens particuliers avec le siège de Rome ?
Ben, nous sommes tous des catholiques, nous sommes liés à Rome. Par exemple, les églises orientales, nous avons un dicastère à Rome qui s'appelle la congrégation des églises orientales, dont à la tête le cardinal Leonardo Sandri, qui un peu organise et coordonne les relations de ces églises avec Rome.
Et il y a eu, il y a quelques années, un synode sur le Moyen-Orient. Quelle importance cela a-t-il eu dans la communion ?
Le synode pour les églises ecclésiales du Médio-Orient, églises du Moyen-Orient, a été invité par le pape Benoît XVI. Et c'est un synode vraiment qui a tenu lieu en 2010, juste un an avant les guerres et les printemps arabes. C'était comme une bonne intuition de ce pape pour préparer les églises d'Orient à envisager une présence autre parmi les crises, parmi les guerres, en ce temps de guerre. Et ça, c'est vraiment... Et c'est pour nous, ce synode et l'exhortation apostolique qui a suivi forment un peu la feuille de route que nous devons prendre, que nous sommes invités à prendre pour un peu continuer notre témoignage dans cet Orient. Alors dans l'exhortation apostolique de l'Ecclésia Médio-Orienté, le pape Benoît XVI nous invite à travailler une vie œcuménique avec les non-catholiques et travailler bien ensemble et coordonner nos activités, à faire une place plus importante aux laïcs, aux jeunes, ce que vous avez fait suite au Vatican II en France. Et nous sommes une église plutôt cléricale, donc il nous invite un peu à laisser une place pour les laïcs et les jeunes. Il nous invite aussi à un dialogue plus de connaissances mutuelles avec l'islam, un dialogue qui sort des circonstances, venir à Pâques, on va à Ramadan chez eux, qu'on passe un peu à un dialogue plus fructueux, de connaître mieux l'islam et l'islam, que les musulmans connaissent mieux le christianisme. Et aussi, il nous invite à mettre en relief l'enseignement social de l'Église. Il nous dit que l'enseignement social de l'Église sera votre cheval de bataille. Parce que l'enseignement social de l'Église, ça concerne les riches, les pauvres, les femmes, les chômeurs, les libertés, les musulmans, les non-musulmans, les chrétiens. Ça concerne tout le monde. Et à partir de cet enseignement, si on cherche à vivre, on peut trouver notre place dans ce monde islamique qui est majoritaire. Et un peu pour vous donner un exemple sur cette vérité, en 1979, la révolution iranienne a abouti et Khomeini a pris le pouvoir en Iran et il a mis à la porte toutes les congrégations religieuses. Il a chassé de l'Iran toutes les congrégations religieuses, sauf les filles de charité. Il est allé pour les chasser, il a trouvé qu'elles tenaient un hôpital pour les lépreux. Il a dit, si je les chasse, qui va s'occuper de ces lépreux ? Elle tenait aussi un orphelinat. Elle dit, si je les chasse, qui va s'occuper de ces orphelins ? Et un hôpital pour personnes âgées. Elle dit, si je les chasse, qui va s'occuper de ces personnes âgées malades ? Il les a gardés. Donc par l'enseignement social et la vie sociale, le témoignage social de l'Église, on est capable de réussir et de trouver un témoignage fort et qui va durer dans l'avenir. C'est un peu ça les perspectives de cette exhortation apostolique, de ce synode, qui nous propose une feuille de route pour survivre et continuer notre témoignage dans cet Orient enflammé.
Vous le dites donc, aujourd'hui la Syrie est en guerre. Et quelle est la place des églises dans une construction de la paix qui est encore hypothétique ?
Vous savez, le pape François définit la guerre de Syrie comme une troisième guerre mondiale fragmentée. Il y a plus de 85 pays qui se font la guerre en Syrie. C'est un problème très compliqué. L'Église est une petite entité symbolique, numériquement et socialement. Et on ne compte pas, vous savez, on est très peu nombreux. On a bien sûr un message de témoignage, mais dans cette guerre très complexe, on a du mal à trouver un peu notre vocation. Bien sûr, moi je lis la vocation des chrétiens d'Orient en relation avec le synode. C'est le synode qui propose, c'est un peu ça notre vocation, de vivre les valeurs de ce synode pour qu'on puisse continuer un peu à témoigner malgré le petit nombre que nous sommes.
Et quelles sont les perspectives de paix au-delà de l'Église pour votre pays? Est-ce qu'une solution institutionnelle qui ressemblerait à ce qu'est le Liban aujourd'hui est envisageable?
Qui peut dire maintenant, le pays est enflammé, aucune proposition de solution n'est à discuter. On espère, on prie. Certains disent que la solution à la libanaise pourrait être bonne pour la Syrie, mais pour le moment, les pourparlers de paix n'ont pas démarré encore.
Alors, ici, vous allez rencontrer des Hauts-Alpins qui se sont rendus en Syrie. Cela a probablement une importance symbolique pour vous.
C'est-à-dire ma relation avec les Hautes-Alpes remonte à 1976, quand je suis venu à l'ordination de mon ami le père Pierre Fournier à Gap, ordonné par Monseigneur Chaguet, c'est ça. Alors j'étais séminariste, nous sommes venus tous de Lyon pour vivre un peu cet événement d'un frère. Bien sûr, depuis ce temps-là, les Hautes-Alpes, pour moi, constituent un pied-à-terre en France et aussi un terrain de dialogue, un terrain d'ouverture, puisque les Hautes-Alpes ont accueilli pendant la guerre du Liban des enfants du Liban et des enfants de Syrie. Et pendant les années de guerre de Syrie, les Hautes-Alpins ont été généreux pour manifester leur solidarité avec les réfugiés de guerre et les familles sinistrées de Syrie, en silence, sans tapage. Et ça, c'est une action qui continue. Et puis, cette relation a été doublée par des visites. Le père Fournier conduisait régulièrement des pèlerinages au Liban et en Syrie, sur les pas de Saint-Paul. Donc, toutes ces visites, et moi-même, je suis revenu plusieurs fois. Et actuellement, il y a un prêtre syrien qui viendra faire un stage de langue, aussi invité par le père Fournier. Il sera accueilli à Notre-Dame-du-Lot pour faire un mois et demi de stage de langue. Donc, ces échanges d'amitié, et les Hautes, il semble que je viens d'apprendre aussi, les Hautes-Alpes ont déjà accueilli dans le temps les séminaristes grecs catholiques qui étaient formés par les Pères Blancs ici même pendant 10 dizaines d'années, qui ont plein plein de souvenirs, qu'ils soient syriens ou libanais. C'est des gens qui n'oublient pas. Les Hautes-Alpes, c'est une terre, je sais pas, de mission, c'est une terre d'évangélisation, c'est une terre d'amitié.
Vous allez célébrer ici à Saint-André, à Gap, ce soir. Vous allez célébrer également à Notre-Dame-du-Lot demain matin, ce dimanche. Quelle importance cela a pour vous, évêque maronite de Damas, de célébrer devant une assemblée qui, au fond, ne vous connaît peut-être pas?
À l'origine, moi, je suis venu pour voir mon ami Pierre. Donc, c'est lui qui m'a mis ce programme. Bien sûr, je serai content de célébrer et de prier avec ce peuple dynamique qui est assez ouvert sur le problème du tiers-monde. Aussi, j'ai eu l'occasion de prendre le repas aujourd'hui avec Monseigneur Di Falco qui s'en va et que je salue fraternellement. Les 14 ans qu'il a vécu ici dans ce diocèse et toutes les grandes réalisations qu'il a faites au niveau des médias et la promotion du sanctuaire Notre-Dame-du-Lot et bien d'autres projets comme ce centre-là donc, qui nous accueille. C'est-à-dire, je viens dire un message d'amitié, rappeler que le petit peuple syrien oublié dans la misère et la souffrance a besoin de votre prière, a besoin de votre soutien, de votre amitié. Nous sommes un peu oubliés maintenant, les médias ne parlent plus de la Syrie ni de ses souffrances alors que la guerre continue. Je viens aussi, voilà, solliciter votre charité et votre prière pour la paix dans ce pays ensanglanté et déchiré depuis 7 ans.
Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir répondu à nos questions.